Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous pouvons dire que les trois piliers de la vie chrétienne sont la foi, l'amour et l'espérance. Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous réfléchissons au sens de ces trois qualités en nous penchant sur la première lettre de l'apôtre Paul écrite à l'église de Thessalonique. D'abord, Magali va lire les trois premiers versets de cette lettre.
De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père.
Merci. Étienne nous rejoint sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Il va nous accompagner tout au long de l'étude de ce texte. Étienne, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Nous avons déjà passé quelques émissions à parler de la foi des chrétiens à Thessalonique, puis de leur amour.
C'est vrai Yann, et aujourd'hui nous allons aborder le troisième de ces piliers de la vie chrétienne, qui celui est l'espérance. En effet, Paul rend grâce à Dieu pour la fermeté de l'espérance des chrétiens de Thessalonique en notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci Étienne. Je pense qu'il faut commencer par donner la définition du mot « espérance ».
Je suis tout à fait d'accord, et voici le fruit de mes recherches. Le dictionnaire Larousse définit tout simplement l'espérance comme étant, je cite, « un sentiment de confiance en l'avenir ». Le dictionnaire Robert, quant à lui, donne une définition un peu plus élaborée. Je la cite. « Un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. » Et puis le site internet de la langue française définit l'espérance ainsi. « La disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. » Pour nous aider à mieux cerner la définition du mot « espérance », je vais m'appuyer sur quelques exemples tirés de la vie quotidienne. Pourquoi le fermier sème-t-il des graines dans ses champs ? C'est parce que l'espérance d'obtenir une bonne récolte le motive. Oui, il aspire à moissonner suffisamment de produits de la terre pour nourrir sa famille entière et gagner un peu d'argent aussi. Il sème des graines parce qu'il regarde vers l'avenir, confiant que son labeur, celui de semer des graines, portera du fruit et qu'il réalisera une bonne récolte. Prenons un deuxième exemple. Pourquoi un étudiant passe-t-il du temps à faire ses devoirs et à bien préparer ses examens ? C'est parce que l'espérance d'obtenir un diplôme l'anime. Il est conscient que grâce à ce diplôme, il pourra exercer la profession de son choix et réussir sa vie. Alors l'étudiant qui prépare bien ses examens peut regarder l'avenir le cœur empli d'espoir, tout en gardant l'espérance que ses ambitions se réaliseront.
Merci pour ces illustrations qui nous aident à mieux comprendre le mot « espérance ». Revenons à présent sur l'espérance des croyants de Thessalonique. En quoi ou en qui avaient-ils mis leur espérance ?
D'abord, je voudrais citer les versets 9 et 10 du premier chapitre de cette première lettre de Paul aux Thessaloniciens. On raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Dans ces versets, nous apprenons que les croyants à Thessalonique ont changé l'objet de leur espérance, car ils ont abandonné les idoles pour se tourner vers Dieu et s'attacher à son Fils Jésus-Christ. Auparavant, ces gens mettaient leur espérance en leurs idoles, mais après avoir entendu le message apporté par l'apôtre Paul, ils ont mis leur espérance en Jésus-Christ. La pratique de l'idolâtrie n'offre aucun espoir. Elle vante une espérance trompeuse et dangereuse dont il vaut mieux se détourner.
Merci, mais pourquoi mettre son espérance en Jésus-Christ ? Quelle est la nature de cette espérance?
Paul déclare que Jésus est ressuscité. En effet, dans la Bible, de nombreux témoignages attestent que Jésus est ressuscité. Et je voudrais affirmer que la résurrection de Jésus transforme de façon glorieuse la nature de notre espérance, car notre espérance devient de ce fait une espérance éternelle. L'espérance dont je parlais tout à l'heure, à partir des exemples donnés, découle des besoins suscités par notre vie au quotidien. Espérer obtenir une bonne récolte est un sentiment positif qui motive notre travail. Espérer réussir à un concours aussi, c'est bien d'espérer et de réaliser ses ambitions professionnelles. Toutefois, notre espérance en Jésus-Christ dépasse de loin toutes ces espérances, car elle est liée à notre avenir éternel. Elle a un rapport avec l'éternité.
Merci, mais vous avez évoqué la résurrection de Jésus-Christ. Quelle est son importance?
Elle est importante d'abord parce que notre espérance en la vie éternelle s'appuie sur le retour de Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, nous saurions qu'il ne reviendra jamais, et il serait inutile de mettre notre espérance en lui. Cependant, le Nouveau Testament l'atteste bien. Jésus est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, nous savons qu'il reviendra un jour pour accomplir toutes ses promesses. Puisqu'il est ressuscité, nous pouvons mettre notre espérance en lui. Nous pouvons garder les yeux fixés sur notre destin éternel, confiants que ses promesses se réaliseront. Ensuite, parce que Jésus est ressuscité, nous avons l'espérance que nous aussi, nous ressusciterons un jour des morts. Notre espérance est bien fondée, elle repose sur des faits solides. Jésus est ressuscité et il peut de ce fait garantir notre propre résurrection.
Merci. Donc notre espérance, c'est notre résurrection pour vivre éternellement. Toutefois, l'apôtre Paul affirme aussi que Jésus reviendra pour nous délivrer, je cite, de la colère à venir. Que veut-il dire par là?
Oui, pour mieux comprendre cette colère à venir et la délivrance de Jésus, je voudrais parler de Noé et de ce qu'il a vécu.
L'histoire de Noé et de sa famille nous est rapportée au début de la Bible, dans les chapitres 6 à 8 du livre de la Genèse. Dieu a demandé à cet homme de construire un bateau immense, que nous appelons l'arche de Noé. Et cette arche lui a permis de survivre à un grand déluge, une véritable inondation mondiale.
C'est exact, Ian. Mais il est important de rappeler pourquoi il y a eu un déluge mondial. En fait, l'humanité entière sombrait dans le mal. La méchanceté, la violence et l'immoralité étaient fort répandues et semblaient normales. Toutefois, Noé était le seul homme juste, un homme disposé à écouter Dieu et à lui faire confiance. Dieu a le mal en horreur, et pour exprimer sa juste colère, il a décidé d'envoyer ce grand déluge qui allait couvrir la terre entière et donc noyer l'humanité dans sa totalité. Mais Dieu a délivré Noé et sa famille de ce jugement en leur permettant de se réfugier dans l'arche que, par la foi, ils avaient construite. Et lorsque les eaux se sont retirées de la terre, Noé et sa famille ont pu sortir indemnes de l'arche et commencer une nouvelle vie. Selon les écrits de l'apôtre Paul aux Romains, Dieu continue à manifester sa colère devant le mal qui de nos jours est très répandu. Dans sa colère, Dieu livre les hommes et les femmes aux conséquences de leurs choix mal avisés, méchants et égoïstes, et c'est ainsi que les tribulations se multiplient et qu'elles se multiplieront davantage alors que la fin de notre ère approche. De plus, lorsque Jésus reviendra, il agira en juge et un jugement final sera prononcé à l'égard de chacun. Ces tribulations et le jugement final sont des expressions de la juste colère de Dieu, des expressions de ses intentions saintes et justes d'enrayer le mal de sa création. Alors nous pouvons nous le demander, est-il possible d'échapper à un tel jugement et comment? Selon la lettre de Paul adressée aux Thessaloniciens, Jésus, lors de son retour, agira non seulement en juge, mais aussi en libérateur, car il est celui qui nous délivre de la colère à venir. En fait, je peux affirmer que Jésus joue le rôle de l'arche qui a protégé Noé et sa famille, pour leur permettre de survivre au déluge et de commencer une nouvelle vie. Noé, avec sa famille, a trouvé par la foi refuge dans l'arche, et c'est ainsi que Dieu les a délivrés de l'épreuve terrible des eaux. De la même manière, pour être délivrés de la colère à venir, nous devons nous réfugier en Jésus-Christ par la foi. Je dois ajouter que notre délivrance repose sur la mort de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus a enduré la juste colère de Dieu à notre place. Et c'est pour cette raison que toutes celles et ceux qui placent leur confiance en lui ne subiront pas la colère à venir. Puis, après la colère de Dieu et le jugement final, la Bible nous enseigne que Jésus fera toutes choses nouvelles. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux seront créés en ces lieux. On ne trouvera plus ni le mal, ni la malédiction. Les larmes n'y existeront plus, car il n'y aura plus de raison de pleurer. Dans la nouvelle création, celles et ceux qui se sont réfugiés en Jésus-Christ verront aussi Dieu face à face et vivront avec lui éternellement.
C'est extraordinaire. Il est difficile de trouver les mots justes pour décrire à quel point notre espérance est merveilleuse.
C'est vrai, Yann. Pour en revenir à la vie éternelle, je voudrais affirmer que c'est en mourant puis en ressuscitant que nous passerons de la période actuelle marquée par tant de maux, de malheurs et de tribulations, à l'éternité caractérisée par la justice et la paix, la joie et l'amour. Et comme je l'ai déjà affirmé, notre espérance repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Puisque Jésus est ressuscité, nous sommes confiants, nous sommes même sûrs, absolument certains, que celles et ceux qui se réfugient en Jésus-Christ ressusciteront un jour et entreront dans la vie éternelle. Nous hériterons aussi de toutes les promesses merveilleuses liées à la nouvelle création.
Merci Étienne de nous avoir si bien éclairé sur la nature de l'espérance du chrétien. Je note que Paul a écrit que les croyants de Thessalonique attendaient le retour de Jésus-Christ et, à vrai dire, nous l'attendons encore de nos jours.
Oui, il est important d'en parler, mais comme nous approchons de la fin de cette émission, je propose que nous le fassions la prochaine fois. Il est difficile d'attendre lorsque nous sommes plongés dans un monde où les tribulations se multiplient. Alors j'expliquerai comment, en fixant nos regards sur notre espérance éternelle, nous pouvons tenir ferme et rester fidèles dans la foi, malgré les afflictions que nous traversons. Ce fut l'expérience des croyants à Thessalonique, et nous pouvons apprendre de leur exemple. J'en parlerai plus en détail lors de notre prochaine émission.
Merci Étienne. À bientôt alors.
Oui, à bientôt et au revoir à tous.
Voilà, nous sommes impatients d'en découvrir plus concernant le thème de notre espérance. Mais en attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.